Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Info.
Bonsoir à tous. Rigueur, vous avez dit rigueur, intentionnel ou pas, le mot est en tout cas sorti de la bouche de Gabriel Attal à l'Assemblée, alors qu'on sait depuis ce matin que le déficit de la France a copieusement dérapé l'an dernier. On parle de hausse d'impôts, de taxation de super-profits, avec l'expert des informés, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Dans un instant, autre alerte sur la sécurité, celle-là, après l'attentat de Moscou revendiqué par l'État islamique. Le seuil d'alerte maximale se justifie fit-il en France? Et puis une star du foot en pleurs, le racisme est-il en train de gagner la partie? L'attaquant brésilien du Real, Vinicius Junior, avoue que les insultes racistes diminuent son envie de jouer. Notre expert sur ce sujet sera Nicolas Xismartoff, journaliste au magazine C'est Foot. Et pour débattre de tout ça, les informés du jour, Audrey Goutard, spécialiste des faits de société à France Télévisions, Laurent Mouloud à côté de vous, rédacteur en chef adjoint à l'Humanité, et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d'Atlantico. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
On connaît donc désormais le chiffre définitif du déficit pour l'an dernier, 5,5%, très loin des 4,9% escomptés dans le budget 2024 qui a été adopté au mois de décembre. On va en parler, mais il y a un mot, madame, messieurs, qui a surgi dans la bouche du Premier ministre. C'est le mot rigueur, à deux reprises cet après-midi. Alors c'est évidemment un mot très connoté. J'avais juste envie de savoir comment vous l'aviez entendu. Gabriel Attal est quand même un homme qui maîtrise sa communication d'habitude.
Oui, c'est un mot qui peut, c'est un mot qui peut paraître surprenant après tout le vocabulaire, au contraire, de lâcher prise quelque part du budget où on a décidé depuis le Covid, où on a considéré qu'effectivement il fallait ouvrir les vannes, investir, payer, régler les crises par de l'argent en plus. Et là, effectivement, c'est le coup de frein, la rigueur qui arrive derrière le mot, le mot inflation. Donc c'est deux mots en deux ans qui évidemment marquent les esprits et vont marquer la population française.
C'est un mot qui, dans le vocabulaire politique, a un sens précis. C'est-à-dire qu'il se distingue du mot austérité. Après, moi, je pense que c'est un mot piège.
Alors allez-y, faut préciser.
C'est-à-dire que le mot austérité, c'est vraiment serrer la ceinture à tout point de vue. C'est vouloir à tout prix n'avoir comme seul objectif quasiment la réduction des dépenses. Le mot rigueur, il renvoie au fait de gérer rigoureusement les budgets. Mais ce qui est un mot très piège en réalité.
Quand vous dites... 83, on est d'accord aussi symboliquement.
Oui, mais
enfin, c'est pas que symbolique.
Non, mais tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est aussi un mot piège parce qu'il est porteur d'un autre danger politique ou social que le mot austérité. C'est-à-dire que ça renvoie à l'idée que ce que vous faisiez donc avant d'être rigoureux ne l'était pas.
On va poser la question à Philippe Crevel dans une seconde. Laurent Mouloud,
oui,
vous avez entendu comment ce mot-là ?
Dans le même sens, il y a un choix de vocabulaire qui est précis. Quoi. Rigueur, ouais. Effectivement, pour donner une image aussi de sérieux, c'est ce qu'ils essayent de faire en disant « nous, on tient les comptes ». Mais évidemment, les faits plaident à l'inverse. Donc, c'est ce que j'imagine qu'on va en discuter ensuite.
Philippe Crevel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du Cercle de l'Épargne, vous êtes notre expert sur tout ce débat autour du déficit. Le mot rigueur, on a vous l'avez entendu peut-être aussi, il vous a frappé, je ne sais pas comment vous l'avez entendu vous.
C'est vrai que rigueur, ça fait évidemment référence à 1983, donc après deux années, on va dire, de dépenses budgétaires fortes, après la victoire de François Mitterrand en 1981, il y avait un impératif à ce moment-là de stopper la dérive du déficit. On était autour de 3% du PIB à l'époque. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on est à 5,5%. Et pourquoi il fallait donc limiter la dérive? C'est qu'il y avait déjà la nécessité au niveau européen d'une certaine convergence. Il y avait la décision de rester donc dans le serpent monétaire européen. Donc c'était des impératifs monétaires derrière. Et donc, on s'était engagé sur le chemin de la rigueur. Là également, aujourd'hui, il y a l'idée, le principe de converger avec nos amis européens. Pourquoi ? Parce qu'on a la même monnaie et il y a une notion de crédibilité de la monnaie en jeu. Et la France ne peut pas faire donc cavalier seul en matière de déficit public.
Alors, on reparlera de ce 3%, mais quand même, c'est vertigineux. On s'arrête sur ce chiffre, 5,5% du déficit, du PIB plutôt, le déficit, au lieu des 4,9 prévus. La différence, c'est pratiquement 16 milliards. Le gouvernement dit, en quelques mois, les recettes ont subitement se sont écroulées. Comment ça a pu s'écrouler comme ça? C'est quoi cette baisse subite des recettes? Philippe Crevel, qu'on va retrouver dans un petit instant.
L'explication du ministre des Finances, elle est simple. Il dit on a perdu en recettes fiscales du fait de l'inflation, puisque l'inflation est un dopant pour les recettes fiscales, on a perdu 21 milliards. Donc selon le ministre, c'est la répercussion effectivement de ce manque à gagner de 21 milliards lié aux recettes fiscales et dopées par l'inflation.
C'est essentiellement dû au contexte macroéconomique, à l'effondrement de la croissance.
C'est l'objet de ma question.
L'inflation, ça joue dans les deux sens. L'inflation, ça diminue de facto.
Je vous donne
aussi
la version du gouvernement.
Ouais. Non, mais je suis d'accord avec vous, Audrey. Le gouvernement dit, ça diminue à la fois la dette, mais enfin, ça contribue aussi mécaniquement. Hein, la TVA, plus les prix sont élevés et plus vous avez de rentrées de TVA, en tout cas si on raisonne nominalement. Mais moi, ce qui m'inquiète, et ensuite je laisse la parole à notre ami Philippe Crevel, c'est que l'INSEE a parlé de premiers chiffres, laissant entendre qu'en réalité, ça sera pire.
Ça sera pire.
Juste un petit point, pardon, pour donner la parole jusqu'au bout au ministre des Finances, et je trouve que c'est intéressant, parce que lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas eu plus de dépenses publiques que nous avions dit, il y a eu moins de recettes que prévu, donc pas plus de dépenses publiques que prévu.
La question, c'est pourquoi est-ce que les recettes se sont réellement écroulées comme ça, et derrière la question, il y a ce procès en insincérité qui est instruit par certains. Est-ce que le gouvernement a ignoré certaines alertes? Mais quand même, comment vous expliquez que ça s'écroule comme ça, vous, Philippe Crevel?
Alors, c'est pas un effondrement. Les recettes ont augmenté moins vite. Donc, le PIB, hein, et c'est vrai qu'on a l'habitude en France que les recettes augmentent un peu plus vite que le PIB, là, elles augmentent moins vite pour deux raisons. Premièrement, la consommation a été relativement étale sur l'ensemble de l'année, donc 2023. Les Français ont préféré épargner. Il faut savoir que le taux d'épargne, donc l'année dernière, a été de 18%, quand avant la crise sanitaire, on était à 15% du revenu disponible brut qui était épargné. C'est 3 points de différence. Et ces 3 points, évidemment, c'est ce qui a été en moins sur la consommation. Donc ça a joué évidemment sur les recettes. Autre point, c'est qu'il y a eu moins de création d'emplois. On est globalement sur un niveau étal au niveau de la masse salariale, donc de moindre entrée au niveau des cotisations sociales, au niveau de l'impôt sur le revenu. Et donc cela, évidemment, cumulé, a fait que les recettes ont augmenté moins vite que les dépenses. Les dépenses progressent, c'est vrai, plus lentement que dans le passé, mais elles continuent à augmenter fortement parce qu'il y a un effet, on va dire, post-Covid, il y a l'effet transition énergétique, il y a l'effet guerre en Ukraine. Donc, tout ceci cumulé entraîne les dépenses vers le haut quand, dans le même moment, les recettes évoluent plus faiblement.
Et c'est pour ça que ça dévisse donc en fin d'année. On poursuit cet échange après le Fil Info, 20h10, Thomas Giraudot.
Les ministres ne répondront pas aux prochaines questions au gouvernement du mercredi. Seul Gabriel Attal prendra la parole à partir de mercredi prochain. Et pour les 4 séances suivantes, un test voulu par le Premier ministre, soutenu par son parti Renaissance et par le Rassemblement National. Mais 2 autres membres de la majorité s'y opposent, les députés Horizon et Modem. La chef de la diplomatie allemande s'est rendue à la frontière entre Israël et Gaza aujourd'hui, là où les camions d'aide humanitaire, d'aide alimentaire sont inspectés par les autorités israéliennes avant de pouvoir entrer dans l'enclave palestinienne. Annalena Baerbock plaide pour faciliter les passages des camions, accélérer les livraisons. De son côté, Washington annonce continuer des largages d'aide au-dessus de Gaza, malgré les risques pour les Palestiniens. 12 d'entre eux sont morts noyés en tentant de récupérer des colis. Malgré l'ampleur du mouvement MeToo dans le cinéma français, une société de distribution annonce qu'elle compte sortir en salle le prochain film de Roman Polanski, sorti prévu le 15 mai, si elle trouve des cinémas prêts à le programmer. Le réalisateur visé depuis 1977 par un mandat d'arrêt international de la justice américaine pour viol sur mineurs, des accusations que Roman Polanski a toujours contestées.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bon.
On est de ce soir en compagnie d'Audrey Goutard de France Télévisions, Laurent Mouloud de l'Humanité, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico et notre expert Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Philippe Crevel, si le gouvernement garde cet objectif d'un déficit à 3% du PIB en 2027, et ils l'ont répété aujourd'hui, est-ce qu'il peut éviter d'augmenter les impôts?
la situation va être très complexe. Premièrement, on a une croissance qui se dérobe. Le gouvernement avait initialement prévu 1,4%. Il a dû réviser à la baisse cette croissance à 1. Il y a de nombreux instituts de conjoncture qui indiquent que cela pourrait être en dessous de 1%. Et donc, avec une croissance faible, par définition, ça rend les recettes également faibles. Et donc, maintenir l'objectif à 2,7% en 2027, ça va être compliqué. Et c'est vrai que l'idée d'augmenter les prélèvements obligatoires est de plus en plus aujourd'hui donc avancée, mais cela va poser des problèmes, évidemment, en termes de croissance également et en termes d'acceptabilité.
Bon, mais si on vous comprend bien, vous, c'est plutôt oui. Pour Bruno Le Maire, c'est toujours non, définitivement non. On l'écoute.
On peut parfaitement faire des économies sur la dépense publique sans aller piocher dans les poches des Français. Et je reste, c'est ma conviction et c'est ma position, totalement opposée à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes.
Laurent Mouloud, c'est Sébastien Ferjou qui...
Je trouve ça faisait rire, effectivement.
Pour le coup, il s'était engagé à ne pas augmenter les impôts, mais là, ça devient compliqué.
Ça devient très compliqué, surtout. Il est dans un dogmatisme qui est assez extraordinaire, parce que depuis 2017, les impôts sont le grand tabou sur lequel il ne faut absolument pas toucher, et que depuis toutes ces années, les exonérations fiscales pour les entreprises, les niches fiscales, la flax tax, etc., il y a eu énormément de cadeaux faits aux plus aisés et aux grandes entreprises qui coûtent des milliards chaque année à la France.
Ça fait rentrer plus d'argent que prévu dans les caisses de l'État.
Ça a coûté l'équivalent de à peu près 190 milliards par an en aide fiscale, tout compris pour les grandes entreprises. Ce sont des sommes colossales. Et aujourd'hui, se trouve évidemment face aux difficultés financières, à cette question de dire est-ce qu'il faut augmenter les impôts, et alors que au sein même de sa majorité, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, dit peut-être qu'il faut faire un impôt sur les super profits. Jean Pisani-Ferry, un ex-proche de Macron, qui dit on peut effectivement faire un impôt exceptionnel étalé au moins pour financer la transition écologique qui nous ramènerait au moins 40 milliards d'euros sur plusieurs années. Ces gens qui sont très proches et qui font partie du logiciel de la Macronie sont pour et ouvrent ce débat, et on a en face de ça un dogmatisme total, une fermeture totale de Bruno Le Maire en tête, mais derrière Emmanuel Macron également, sur cette question-là, et franchement, on tourne vraiment au grand n'importe quoi.
Mais le dogmatisme est partout, parce que comme je vous le disais, malgré tout ce qui a été décidé en matière de fiscalité des entreprises et ce qui a permis à la France d'avoir plus de recettes que prévu sur des exercices précédents, notamment la flat tax, où les rentrées fiscales ont été plus importantes justement parce que ça a permis à l'activité de se développer. Mais moi, ce qui me frappe, c'est surtout l'espèce d'anorexie mentale, en quelque sorte, qu'il y a dans le gouvernement et de manière générale en France. C'est-à-dire qu'on ne raisonne jamais sur le fait de faire augmenter le gâteau. La dette comme le déficit, c'est un pourcentage.
Alors, il y a deux façons, effectivement,
de
régler le problème.
C'est un pourcentage du PIB. Ben oui, mais c'est pas juste une vue de l'esprit. C'est-à-dire que la croissance est bizarrement pas se donner les moyens d'essayer d'aller chercher plus de croissance. Et c'est pas de la pensée magique. Les États-Unis, après 2008, la grande crise de 2008-2009, l'Europe est rentrée dans une décennie de croissance atone. C'est-à-dire que jusqu'avant 2008, on était à peu près synchrone avec les États-Unis. Nous ne le sommes plus maintenant, alors que eux sont rentrés dans la phase de croissance la plus longue et la plus forte de toute leur histoire. Donc ça n'est pas hors de portée. Nous sommes en train de nous japoniser. C'est-à-dire ce que le Japon a vécu depuis les années 90, qui est une logique quasiment déflationniste. Et ça, c'est aussi lié à des erreurs de politique macroéconomique, notamment au niveau de la politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne. Mais comme on a découpé politique budgétaire et politique monétaire, alors que ça n'a pas de sens de disjoindre les autres, c'est d'ailleurs pour ça que la pression européenne s'exerce sur la France à l'heure actuelle, puisque ce que fait la France d'un point de vue budgétaire impacte tout le reste de la zone euro. Mais essayer d'aller chercher plus de croissance, ne pas augmenter les taux de manière inconsidérée quand l'activité est déjà en train de reculer très fortement, c'est pas non plus parce que ça serait possible d'aller chercher plus de croissance, et donc plus de croissance, c'est mécaniquement plus de rentrées fiscales.
On pourrait déjà taxer les super profits, ce qui se fait dans d'autres pays.
Juste
en parliez tout à l'heure.
Ça n'existe pas, les super profits.
Pour le coup, ça n'existe pas, mais beaucoup de gens en parlent.
Oui, mais beaucoup de gens parlent de beaucoup de choses.
La gauche gère depuis longtemps, et Laurent Mouloud le disait, un certain nombre de voix dans la majorité commencent à en parler. On va écouter, alors dans l'ordre, Marine Tondelier, qui était ce matin sur France Info, qui, on va dire, dans les historiques, qui plaide pour cette hypothèse-là, et puis un ministre quand même dans la foulée. D'abord Marine Tondelier.
Eh ben, par exemple, taxer les super-profits. Je ne vous dis même pas de taxer les profits, ce qui paraît quelque chose de normal, mais les super-profits, c'est-à-dire des profits qui ne sont pas liés à un investissement supplémentaire ou à un talent particulier. C'est 10 à 20 milliards par an de rendement, c'est-à-dire que toutes les économies qui vont aller chercher sur le dos des Français que je viens de vous citer, si on taxait les super-profits, on pourrait foutre la paix aux Français, protéger l'environnement, protéger nos services publics, protéger celles et ceux qui les fréquentent et qui en ont besoin.
Voilà, réponse du ministre des Comptes publics, qui n'exclut pas de prendre chez les plus aisés.
Vous savez, sur les plus aisés, on n'a pas de tabou. On l'a dit avec Bruno Le Maire. Donc, je l'ai dit, je l'ai redit aux parlementaires. Quand on constate avec la Cour des comptes que les énergéticiens ont dégagé plusieurs dizaines de milliards d'euros de super profits, c'est pas un tabou pour nous. Vous savez qu'on avait prévu une taxe sur leurs super profits qui n'a ramené que 300 millions d'euros. On considère que c'est pas assez. Et nous, on soutiendra toutes les initiatives de la majorité pour aller récupérer une partie de cette rente.
Voilà, le ministre en charge des comptes publics, Thomas Cazenave. Philippe Crevel, redites-nous, c'est quoi exactement l'ampleur de ce gâteau éventuel, ce qu'on peut imaginer quand on dit taxer les super-profits?
Les super-profits, c'est évidemment un mot fantasme. Hein. Derrière, on y met énormément de choses. On pourrait se dire c'est les profits qui dépassent les 10 milliards d'euros, mais ça dépend évidemment du chiffre d'affaires des entreprises. Une entreprise qui fait 50 milliards d'euros, une entreprise qui en fait 300, c'est pas le même ratio. Et puis, d'autre part, ce sera le risque, c'est évidemment une taxation one shot. L'entreprise qui se fera avoir une fois la taxe super profit, l'année d'après, elle évitera de rentrer dans la catégorie des super profits. Donc, c'est un coût symbolique. Il y a un taux d'imposition qui est celui de l'IS, qui est de 25% aujourd'hui. On peut débattre, est-ce qu'il faut le porter à 33%, pourquoi pas, mais taxer les super-profits, c'est vraiment de l'affichage pour moi symbolique. On pourrait gagner quelques milliards d'euros au mieux. Et encore, pour une année, ce serait du one-shot.
Mais on peut donner une définition du super-profit. Vous avez raison, il y a plein de choses que l'on met dans le super-profit. Mais néanmoins, il y a ces grandes entreprises, c'est pour ça qu'on appelle ça le super-profit de ces grandes entreprises. Ce sont les grandes entreprises qui enregistrent des bénéfices, non pas grâce à des innovations ou des gains de productivité, mais en profitant... circonstances externes. Par exemple, les entreprises énergétiques qui ont profité, EDF, etc., qui ont profité, parce que c'est comme ça, de la guerre en Ukraine, d'autres ont profité de la pandémie pour obtenir effectivement des bénéfices qu'ils n'auraient jamais obtenus en temps normal. Enfin, et donc, l'idée, c'est de taxer effectivement ces super profits qui sont peut-être temporaires, mais qui rapporteraient beaucoup d'argent effectivement aux États. Et d'ailleurs, d'autres pays européens le font. L'Espagne, l'Italie...
Et avec une fiscalité du capital qui est différente. Bien et au-delà sûr. De ça, ça moi, je rejoins vrai. Totalement c'est ce vrai. Que disait Philippe Crevel, c'est un fantasme.
Mais là,
fantasme.
On parle effectivement de...
Mais Audrey, CMA-CGM, qui est un des meilleurs exemples en la matière.
On parle de prélèvement temporaire.
CMA-CGM, en sortie, donc très grand transporteur de containers, oui. En sortie du Covid, à cause des fameux goulets d'étranglement, d'un seul coup, il y a eu une demande énorme. Donc les prix du fret ont explosé. Donc CMA-CGM a fait des profits, je ne me souviens plus, mais ça devait être de l'ordre de plus de 20 milliards sur...
Du fait de la pandémie.
Mais pendant les 15 ou 20 années qui ont précédé, ils ont perdu de l'argent. C'est-à-dire, c'est ce qu'on oublie toujours dans l'équation. C'est ce que Marine Tondelier oublie. Elle va aller les indemniter, les entreprises, quand ils font des pertes, y compris quand ils font des pertes à cause de décisions politiques.
Enfin, Total Énergie.
Parce que sur les décisions énergétiques, vous voyez bien qu'il y a des décisions qui ont été prises par des politiques qui ont produit, parce que les entreprises, elles pourraient dire aussi, mais attendez, vous avez totalement déconné dans votre anticipation de nos besoins énergétiques, et donc ça a fait exploser nos coûts, et donc vous venez nous indemniser parce que c'est à cause de vos mauvaises décisions sur le nucléaire, par exemple, que nos coûts ont explosé. Donc, autant je comprends la logique de dire, évidemment, que dans une période d'effort, il est plus cohérent et plus juste d'aller chercher de l'argent du côté de ceux qui en ont le plus, ça me paraît d'une évidence absolue, autant ça n'est pas une raison pour céder à des facilités intellectuelles, enfin, parce que le super profit, c'est une facilité intellectuelle.
On continuera juste après le fil info, mais la question, c'est quand même de savoir dans quelle mesure ils doivent ou non contribuer d'une certaine façon, néanmoins. On entend l'historique de chaque entreprise, mais c'est après le fil info, 21, Thomas Giraudeau.
Le ministre des Armées dément la vente à Israël de composants de fusils mitrailleurs possiblement utilisés contre des civils à Gaza. Sébastien Lecornu a réagi à l'enquête des sites d'investigation Disclose et Mars Actu. Il assure que ces pièces ont été vendues à un groupe israélien obligé ensuite de les exporter vers d'autres pays. Pour le procureur d'Angers, il s'agit probablement d'un féminicide suivi d'un suicide. Un homme et une femme d'une quarantaine d'années ont été retrouvés morts par arme à feu à leur domicile dans le Maine-et-Loire. Les deux enfants du couple ont été pris en charge. Ils n'étaient pas présents au moment du drame. La catastrophe de Baltimore aux États-Unis est due à une perte de la propulsion du bateau, indiquent ce soir les autorités portuaires. Un porte-conteneur s'est encastré dans le pilier d'un pont de la ville la nuit dernière. L'ouvrage s'est effondré. Les secours sondent toujours la zone autour du pont à la recherche d'au moins 6 victimes. Et puis, gagner pour éviter la spirale négative à moins de 3 mois de l'Euro de football et après la défaite logique face à l'Allemagne, les Bleus ont l'occasion de se racheter face au Chili ce soir, 21h, le coup d'envoi de cette rencontre au Stade Vélodrome.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Jean-Sébastien Ferjouet là pour Atlantico, Laurent Mouloud pour l'Humanité, Audrey Goutard pour France Télévisions et Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Audrey Goutard, vous vouliez réagir.
Je voulais réagir sur le fait que le super profit. Non, mais pas sur la taxation des super profits. Total Énergie, par exemple, a considéré aussi qu'ils avaient fait des super profits. Alors après, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça s'appelle des super profits, c'est-à-dire des bénéfices sur le dos quelque part de la guerre ou etc. Et d'ailleurs, ils l'ont tellement constaté qu'ils ont décidé de reverser une partie de ces super profits à leurs salariés ou de baisser les prix à la pompe. Donc, ça veut dire que ça existe, ces super profits. Ça existe de façon peut-être temporaire, ça existe de façon peut-être dans un temps très court, bon, temporaire, mais ça existe quand même. Et on peut effectivement en profiter de cette manne pour la redistribuer d'une façon ou d'une autre. Alors après, c'est peut-être pas dans la poche de l'État, mais c'est peut-être dans la poche du consommateur directement. Oui, bah mais ça existe. Dire que ça n'existe pas, ça veut dire que
par la case d'État, parce que pour le consommateur, au moins, il est sûr de.
Oui, mais lorsqu'on dit que ça n'existe pas et que c'est imaginaire, eh bien, du coup, on n'aborde même pas le dossier.
D'un point de vue comptable, ça n'existe pas.
Juste, il n'y a pas que la question des super profits, question des exonérations fiscales des entreprises qui sont un axe majeur de la politique d'Emmanuel Macron depuis des années, qui coûtent des dizaines de milliards d'euros par an. Ces exonérations fiscales, ce sont des rentrées fiscales en moins qui ne sont pas pour l'école, pour la santé, etc. Au bout d'un moment, on n'interroge pas ce système-là. C'est-à-dire que très bien,
si on l'interroge
en disant que c'est hyper efficace, on sait que ces exonérations fiscales...
justement la charge fiscale en France
elle ne tue pas l'activité, c'est pas vrai.
Ce que je disais tout à l'heure, la flat tax, ça a permis plus de rentrées fiscales que l'exonération avant qu'on baisse
fiscale,
le taux d'imposition sur les gens.
L'exonération fiscale en France n'est pas le dogme indépassable. L'exonération fiscale aujourd'hui, elle est... L'exonération fiscale, elle n'est pas conditionnée à des résultats, ni d'embauche, ni etc. Ils touchent les exonérations fiscales, ces grands groupes, sans avoir aucune obligation derrière de résultats en termes d'embauche ou d'augmentation de salaire, etc. Donc c'est de l'argent donné sans aucune garantie derrière, pas pris par l'État, effectivement. Quand vous devez financer aussi l'emploi des profs, on serait bien content de les avoir, ces rentrées fiscales. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation, on va faire payer, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi là, il y a un plan de stabilité européen aujourd'hui, en fait, et on s'inscrit effectivement, comme on le disait au début de l'émission, dans un plan de stabilité européen voté au niveau de l'Union européenne, et la décision de Bruno Le Maire s'inscrit dans ce cadre-là, évidemment. Mais tout cela va se faire au détriment de quoi? Ça va être au détriment d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, au détriment de la santé avec le non-remboursement de certains médicaments. En gros, on va faire payer à ceux qu'on applaudissait aux 20h il y a quelques années, au moment du Covid, on va leur faire payer aujourd'hui l'addition de ça. Et là, je trouve ça extrêmement gonflé de se dire, ben non, il y a certains, ils n'ont rien à craindre, ils resteront, peuvent continuer leur super profit au nom, effectivement, l'économie qui tourne bien.
Quel est le risque, Philippe Crevel, quel est le risque à taxer, alors certains brandissent un départ de certaines entreprises, est-ce qu'il est réel ce risque-là?
Alors, la France bénéficie aujourd'hui d'investissements internationaux, donc d'investissements d'origine étrangère qui contribuent à deux choses. Premièrement, à moderniser le pays, à pouvoir créer des usines en France et donc à créer des emplois industriels. La France, depuis donc 2 ans, recrée des emplois industriels. Et puis, la France a besoin de capitaux extérieurs, il faut bien s'en souvenir, pour équilibrer sa balance des paiements courants. Nous sommes en déficit commercial important et c'est grâce à cet apport de capitaux qui est attiré par des conditions, on va dire, de compétitivité du pays qui se sont améliorées ces dernières années. Et donc, on a besoin de ces capitaux. Et on en a besoin également pour nos entreprises et pour l'emploi. Taxer davantage, évidemment, ce serait dégrader la compétitivité des entreprises et dégrader l'attractivité du pays. Donc, il faut quand même faire relativement attention en la matière. Et puis, Il ne faut pas oublier que la France a quand même le record de l'OCDE, de l'Union européenne en matière de dépenses publiques, 57% du PIB, et un record en matière de prélèvements obligatoires autour de 43% du PIB. Donc on n'est pas dans un pays où on fait des cadeaux à tout le monde en matière de fiscalité, et on est également un des pays qui consacre le plus de dépenses à la fois sur les fonctions sociales, d'éducation. Après, la question, c'est évidemment l'efficience des dépenses publiques, comme l'a dit tout à l'heure M. Ferjou.
Et on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Jean-Sébastien, vous vouliez réagir.
Oui, c'est juste, on parle beaucoup de transition énergétique. Et effectivement, c'est un défi qui est majeur et il faut absolument s'en occuper. Mais dans un environnement d'incertitude, parce que qui sait quelle sera l'énergie, par exemple, de demain ? Est-ce que ce sera l'hydrogène ? Est-ce que c'est autre chose ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des investisseurs qui prennent des risques beaucoup plus grands que ce qu'ils prenaient avant. Donc, quand vous prenez des risques beaucoup plus grands, vous avez aussi beaucoup plus de chances ou de risques de perdre votre argent, parce que ça existe toujours. On pense toujours quand les entreprises ou les investisseurs gagnent de l'argent, mais on ne les indemnise pas quand ils en perdent. Et c'est normal, puisque ils acceptent de prendre les fameux risques. Mais donc, dans un environnement d'incertitude toujours plus grand, si vous vous imaginez qu'on arrivera à attirer des investisseurs en leur disant, finalement, si jamais, si tu perds, tant pis pour toi, et si jamais tu gagnes, de toute façon, je te prendrai ce que tu gagnes. Ça n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'on a besoin, puisque les risques vont être toujours plus élevés, les risques de choix d'investissement, on a besoin de garantir aux investisseurs le fait qu'ils puissent aussi gagner de l'argent quand ils en gagnent, parce que mécaniquement, ils en perdront aussi beaucoup en faisant les mauvais paris. Je vous le disais, notamment, quelles seront les énergies dont nous aurons besoin demain.
Vous faites vous évoquez la transition écologique, et c'est vrai que ça fait partie des, pour le coup, dans les coupes budgétaire de ce dans quoi on...
La transition écologique ne relève pas que de la responsabilité d'entreprises privées et d'investisseurs privés. J'ai l'impression en écoutant que c'est les risques de capital risqueur qui vont faire la transition écologique dans le monde. C'est un peu une vue de l'esprit peu sympathique, mais c'est pas la réalité.
Ce n'est pas la réalité. Décider qui est l'énergie de demain.
Ce n'est pas la réalité.
Pardon, mais quand on regarde les paris qu'ils ont fait en matière d'énergie, on voit que
c'est pas le privé qui paye la fusion nucléaire ou Cadarache, etc. Ce sont des investissements publics. Et je pense que le développement du parc nucléaire en France, on peut être pour, on peut être contre, mais qui a été une avancée en termes énergétiques, c'est un développement public. Donc il ne faut pas non plus tout confondre.
Juste pour clore, demain, Gabriel Attal s'exprime aux 20h de TF1. D'après vous, de tout ce que vous avez compris, avec ce mot rigueur qu'on a entendu tout à l'heure, il avance vers quoi demain ? Il fallait.
Ça a été évoqué. Il y a une contrainte européenne qui est très forte. Et en plus, il y a la note de la France. Vous savez, est-ce que la France va conserver ou perdre son double A et ça se joue au mois d'avril. Je pense que Gabriel Attal, il va certes s'adresser aux Français, mais la réalité, c'est qu'il s'adresse aussi beaucoup à nos partenaires européens et aux agences de notation.
Et il y a une petite dramatisation surjouée autour de ce thème-là, parce que la France n'a actuellement aucune difficulté à emprunter sur les marchés financiers, y compris sur sa dette. Et il n'y a pas d'inquiétude réelle en ce moment autour de ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'intox
pour pouvoir faire passer des choses.
Après, les Français s'interrogeront certainement de voir effectivement qu'on dépense autant alors qu'il n'y a jamais eu autant de pauvres en France, il n'y a jamais eu autant de services hospitaliers et d'urgence, 130 services d'urgence en difficulté, l'aide alimentaire qui explose. Donc il y a quelque chose quand même qui ne tourne pas rond dans la façon dont l'État gère l'argent.
Les dépenses publiques.
Et on y reviendra évidemment demain soir après cette interview du Premier ministre. Pour l'heure, il est 20h30, l'heure de faire un point sur l'info sur France Info. Et bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous. L'armée israélienne confirme ce soir avoir éliminé, il y a deux semaines maintenant, le numéro 2 de la branche armée du Hamas, Marwan Issa, l'un des organisateurs du massacre du 7 octobre, selon le porte-parole de l'armée de l'État hébreu, éliminé dans une frappe à Gaza. La Maison-Blanche avait déjà annoncé son élimination il y a 6 jours. Aux États-Unis, c'est une perte momentanée de propulsion qui a conduit à la collision entre un porte-container et un pont autoroutier de Baltimore. Tôt ce matin, le pont qui s'est littéralement effondré comme un château de cartes. L'équipage avait informé auparavant les autorités d'un problème d'alimentation électrique. Le pont s'est effondré, entraînant donc la chute de plusieurs véhicules. 7 personnes au moins sont toujours recherchées. Le navire accidenté avait lancé un SOS qui avait permis aux autorités de réduire le trafic sur le pont. Un violeur en série présumé activement recherché par la police à Grenoble. Le suspect est âgé d'une 20aine d'années. Il circule sur une trottinette noire et suit ses victimes avant de les agresser. Il est déjà soupçonné de plusieurs viols et agressions sexuelles d'après le procureur de Grenoble. Et puis c'est un nouveau record à quelques jours de Pâques et des œufs en chocolat. Le cacao atteint pour la première fois les 10 000 dollars la tonne. Les fèves sont en effet touchées par des maladies causées par d'abondantes pluies en Afrique de l'Ouest, où se trouvent les pays producteurs, ce qui réduit l'offre disponible sur le marché mondial. Enfin, le football, victoire impérative pour les Bleus ce soir, après leur défaite de samedi soir contre l'Allemagne. L'équipe de France, même largement remaniée, doit s'imposer à Marseille pour ne pas laisser le doute s'immiscer le match à partir de 21h. Et puis l'appartement parisien du couturier Karl Lagerfeld, vendu aux enchères à Paris, ce 3 pièces futuriste de 260 mètres carrés a été adjugé aujourd'hui plus de 11 millions d'euros avec les frais.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Compagnie ce soir d'Audrey Goutard, France Télévisions, grande conversation avec Jean-Sébastien Ferjou, l'Atlantico et Laurent Mouloud de l'Humanité. On parle de Vigipirate, de cette alerte, alors alerte maximale depuis 48 heures à nouveau. Vigipirate est remonté à son seuil, je vous le disais, maximal suite à l'attentat de Moscou revendiqué par l'État islamique au sommet de l'État. En quelques heures, vous avez peut-être remarqué qu'on a entendu Emmanuel Macron, Gabriel Attal et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Écoutez.
C'est une mesure qui est cohérente compte tenu de la revendication de cet attentat et du fait que ce groupe a plusieurs fois tenté de toucher le sol français.
Tous les premiers éléments qui sont à notre disposition attestent du fait que la branche de l'État islamique qui a revendiqué l'attentat de Moscou est une branche de l'État islamique qui a développé plusieurs projets d'attentats visant des pays européens, notamment la France et l'Allemagne, ces derniers mois.
Plusieurs attentats de l'État islamique ont été déjoués sur le sol national, notamment à la fin d'année 2022, à Strasbourg, où des personnes avaient été enclenchées sans doute par l'État islamique pour passer à l'acte, et nous les avons interpellés avant qu'ils passent à l'acte.
Est-ce que ce niveau d'alerte pour vous est justifié, basculer au lendemain d'un attentat qui n'est pas sur, évidemment pas sur le sol français, justifie cette bascule, Audrey Goutard?
Oui, je pense, parce que il y a plusieurs causes à cette décision. La première, c'est que oui, c'est à la fin de l'année 2023, il y a eu des profils qui ressemblent à ceux qui ont commis l'attentat de Moscou, qui sont rentrés en Europe, qui ont été interpellés en Allemagne, en Autriche, parce que en 2022, nos services français ont interpellé un profil ressemblant à un Tadjik qui essayait de fédérer autour de lui des Tchétchènes pour commettre un attentat. Nous avons des services qui fonctionnent bien, mais qui sont pas, le risque zéro, vous le savez, n'existe pas. Donc il y a cette ambiance. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt. Il y a, en fait, si vous voulez, plein de faisceaux qui laissent penser que nous sommes fragilisés aujourd'hui et que nous sommes dans... Et puis, il y a évidemment la résurgence du groupe État islamique avec des capacités qui sont de plus en plus importantes, même si heureusement ils ont du mal encore à se projeter jusqu'à la France, ou en tout cas à recruter en France, puisqu'il y a une très petite communauté tadjik en France comparée par exemple à la communauté tchétchène. Donc ils ont du mal à trouver des soldats pour commettre des attentats, mais le risque il est là. Et les appels à l'attentat en Europe, en France, etc., ils existent. Donc tout cela fait que il est important que nos concitoyens soient vigilants, vigipirates, soient vigilants, soient observateurs, et c'est effectivement l'œuvre de tous, en plus des services de police, que d'essayer de contrer ces attaques.
Même question, Laurent Mouloud, ça sert à quoi? À rendre vigilants les Français à...
La vigilance des Français, oui, c'est toujours bien. Enfin, même après, si moi je suis pas spécialiste, mais voilà, c'est surtout l'organisation des services de l'État face à cette menace qui est un peu perpétuelle et permanente désormais, qui n'est jamais à prendre à la légère, parce qu'elle peut intervenir à tout moment. Moi, je crois qu'il y a aussi un contexte. Pourquoi ils ont réagi aussi vite, c'est qu'il y a un contexte des Jeux Olympiques qui arrive, qui est une échéance mondiale, internationale pour la France, qui est évidemment un moment extrêmement complexe à gérer au niveau de la sécurité et qui va être potentiellement pour des terroristes une tentation extrêmement forte. Et la volonté là de marquer un vrai coup, on va dire, que ça soit de communication, mais en tout cas un vrai coup aussi de en montrant un peu les muscles aussi, c'est aussi une vertu pour dire que la France est prête aussi sur la question sécuritaire dans l'optique des Jeux, quoi.
Vous êtes d'accord, message au reste du monde, Jean-Sébastien Ferjou, en vue des JO?
Un message aussi aux Français. Parce qu'on sait, il y a pu avoir une phase où on s'est dit, après l'élimination de l'État islamique en Syrie, pour le coup, où il y avait moins de base arrière pour des actions très organisées, et donc on connaissait plus un terrorisme comme on a connu, malheureusement, avec Samuel Paty ou Dominique Bernard, enfin, d'actions, ou à Bir Hakeim encore, malheureusement, il y a peu de temps, très individuel, finalement, sans avoir beaucoup de logistique, ni financière, ni humaine derrière. Là, on sait qu'il y a de nouvelles menaces, à la fois parce que Al-Qaïda s'est reformé, une autre branche d'Al-Qaïda s'est reformée. Dans le magazine d'Al-Qaïda, il y a des menaces qui ont été émises à l'encontre de la France, parce qu'on sait que le Hamas aussi, potentiellement d'ailleurs avec l'Iran, il y a des terroristes qui ont été identifiés sur le sol européen, me semble-t-il, un peu plus en Allemagne. Enfin, on sait qu'il y a aussi une volonté de terrorisme justement un peu plus structurée que ces attaques purement individuelles. Donc voilà, oui, c'est utile de rappeler à tout le monde que la menace, elle existe et que la vigilance est nécessaire.
Oui. Juste pour rajouter quand même, c'est vrai que le contexte, le fait qu'il y ait un attentat en Russie, ça peut aussi pousser à un passage à l'acte à des personnes aussi un peu déséquilibrées, ou des gens qui étaient dans un phénomène ou dans une radicalisation en France pourraient aussi, face à ces images, décider de passer à l'acte. Je pense qu'il y a aussi une volonté de montrer que les forces de police en action pour aussi peut-être de couper l'herbe sous le pied à des tentations aussi.
Ouais. Audrey Goutard, vous qui suivez beaucoup tous ces sujets-là, concrètement, c'est 4000 hommes supplémentaires. Qu'est-ce qu'on sait de est-ce que les patrouilles sentinelles sont dissuasives?
Alors, elles sont, donc c'est 4000 hommes qui peuvent être déployés, hein, en plus des 3000 qui existent déjà et qui sont dans les gares.
Ça veut dire quoi, qu'ils peuvent être déployés?
Ils sont en réserve, prêts à être déployés. Ils vont pas être déployés là. Ils sont 3000, il y a 3000 patrouilles sentinelles et 4000 prêts à être déployés.
D'accord.
En fonction de l'évolution, etc. Oui, c'est dissuasif. D'abord, ça rassure les gens. Et oui, c'est dissuasif pour les actions isolées parce que on le voit bien. Il suffit d'un homme avec un couteau et dans une gare, etc. C'est dissuasif. Mais très honnêtement, c'est le travail des services de renseignement qui est le plus important. Oui. Et là, je peux vous dire aujourd'hui que les services de renseignement, on parle de la nébuleuse terroriste, mais il y a une nébuleuse du renseignement qui a énormément progressé depuis 2015, qui fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de surveillance, ils sont beaucoup plus proactifs, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a des analystes qui ont été embauchés dans les services de renseignement et qui analysent, qui sont sur les boucles Telegram, etc., et qui peuvent avoir infiltré les groupes terroristes. Et puis, il y a cette coopération qui est toujours assez étonnante, qui est cette coopération souterraine qui se fait entre tous les services de police, mais y compris avec le FSB. On n'a jamais cessé, les services français, anglais, espagnols, etc., n'ont jamais cessé, et russes, n'ont jamais cessé de travailler ensemble, malgré la guerre, malgré les crises.
Malgré les désaccords.
Et les désaccords. Ouais. Et donc, effectivement, ce travail en commun, et d'ailleurs, je vous rappelle que ce sont les Américains qui ont alerté début mars les Russes de l'imminence d'un attentat. Donc, le travail de renseignement, c'est le travail le plus important qui fait qu'on arrive à éviter énormément d'attentats. Il y en a plus d'une. Gabriel Attal a annoncé les chiffres. 74 projet d'attentat déjoué depuis 2015.
Et le début de l'année. Mm-hmm. Ce que vous disiez là sur la coopération des services va dans le même sens que les propos d'Emmanuel Macron qui annonce tout de suite après l'attentat, qui propose en tout cas son aide évidemment et la collaboration de la France à Vladimir Poutine. Ce qui dans le contexte de guerre en Ukraine peut surprendre.
Là pour le coup on a un seul et même ennemi, c'est le terrorisme qui s'attaque à nos populations civiles de façon... Et donc ça, au-delà de la guerre, effectivement, ça a toujours fonctionné. Ce renseignement, ces échanges ont toujours fonctionné.
Après le fil info, on essaiera de voir où la France peut progresser dans tout ça. D'abord, 20h41, Thomas Giraudeau.
Le patron des Républicains, Éric Ciotti, prévient que l'hypothèse d'une motion de censure du gouvernement est sur la table après le dévoilement des chiffres officiels du déficit public, bien plus élevé que les prévisions du gouvernement. Nous allons poursuivre une voie de rigueur, s'est défendu Gabriel Attal devant les députés. Parmi les mesures d'économie envisagées, une réforme de l'indemnisation des chômeurs. Gabriel Attal préside demain un séminaire gouvernemental sur le sujet. Un homme de 20 ans de type européen aux yeux marrons, c'est le portrait robot du suspect activement recherché à Grenoble pour plusieurs viols et agressions sexuelles commises sur des jeunes femmes depuis le début de l'année. La décision sera scrutée par les défenseurs de l'environnement. La Cour européenne des droits de l'homme rendra le 9 avril prochain ses premiers arrêts en matière de dérèglement climatique. Trois dossiers sont sur le bureau des juges européens. L'un d'entre eux vise tous les pays de l'Union. Et puis après une année 2022 catastrophique et la pire crise sanitaire de son histoire, la filière canard se porte beaucoup mieux. La production de foie gras a augmenté de 21% l'an dernier en France, se félicite l'interprofession. Les canards commencent depuis l'automne dernier à être vaccinés contre la grippe aviaire.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Audrey Goutard est là pour France Télévisions, Jean-Sébastien Ferjou pour Atlantico, Laurent Mouloud pour l'Humanité. Alors là où la France peut peut-être et doit manifestement progresser selon ce spécialiste, ce consultant que vous allez entendre, Sébastien Pietras-Saintal, ancien député PS des Hauts-de-Seine, aujourd'hui consultant spécialisé en intelligence économique, en sécurité, en terrorisme. Là où la France doit progresser, donc, c'est dans le suivi des gens qui étaient incarcérés pour radicalisation et qui en sont sortis. Écoutez.
Aujourd'hui, il y a 500 détenus qui sont détenus pour des questions de terrorisme. Il y en a plus de 500 qui sont sortis de prison depuis 2015. Il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place, notamment de suivi de renseignements, d'inscription dans un certain nombre de fichiers. Mais la menace des sortants de prison, elle est importante et elle demeure, que ça soit les sortants de prison, mais également en milieu carcéral, puisqu'il y a déjà eu des attentats en milieu carcéral. Là où il faut mettre des moyens, c'est davantage dans le service de renseignement pénitentiaire qui a été créé tout début 2017. Et ces services de renseignement pénitentiaire ont eu des moyens renforcés, mais pas suffisamment à la hauteur de l'enjeu. On est face à un défi du nombre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui radicalisées, 20 000 inscrits dans le fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, dont 5 000 fiches actives.
Voilà, il y a la sortie, puis il y a la prison elle-même.
Oui, parce qu'on s'est rendu compte en plus que la déradicalisation, ça fonctionne pas vraiment. C'est-à-dire que on arrive en marge à déradicaliser une certaine partie des jeunes gens qui sont arrivés et qui ont été condamnés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, généralement. On n'a jamais l'assurance, effectivement, qu'ils sont réellement déradicalisés. On a vu dans plusieurs affaires que, malgré tout, il y a toujours un moment où ils se font reprendre à leur sortie et réendoctriner. Donc, c'est extrêmement compliqué à gérer. Donc, ça demande, effectivement, une surveillance très importante. Après, les progrès technologiques font que c'est de plus en plus facile. Il est de plus en plus facile de suivre quelqu'un, de voir ses allées et venues, de voir qui il rencontre, de quelle manière il circule, etc. Je livre pas de secret, hein. Les détenus sortis savent très bien qu'ils sont sous surveillance. Ils doivent pointer au commissariat, etc. Et donc, ça fonctionne plutôt pas mal. La DGSI a l'impression de maîtriser à peu près, mais on n'est jamais à l'abri d'un détenu sorti qui a l'air d'être très calme et puis qui tout à coup a une séparation, une déception, une dépression et repart dans le djihad. On n'est jamais à l'abri. Le risque zéro n'existe pas, effectivement.
C'est très clair.
Deux choses sur la déradicalisation. Oui, effectivement, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas plus exactement, on n'est jamais sûr de ce qui a pu fonctionner ou non. Après, malgré tout, ne cédons pas à l'hubris technologique, c'est l'erreur qui a été commise en Israël aussi. Et pour en avoir parlé avec un certain nombre d'Israéliens ou d'officiers israéliens, ils se mordent les doigts, effectivement, d'avoir un peu renoncé au renseignement humain ou à ce qui peut se passer sur le terrain, en s'imaginant que finalement des barrières technologiques ou des moyens technologiques de surveillance pouvaient suffire. C'est absolument nécessaire, ça facilite effectivement le travail, mais il faut surtout pas céder à la tentation de penser que ça ferait le job dans son ensemble. Après, dernier point, il y a aussi autre chose où je pense qu'il y a une marge de progrès qui est sur l'analyse de ces profils hybrides qui sont entre le terrorisme et la psychiatrie. Daniel Zaguri, vous savez qu'un des plus grands experts psychiatres français, explique très bien à quel point nous avons plus exactement des services de renseignement où la chaîne judiciaire a de la peine à appréhender ces profils parce qu'on a tendance à soit voir la case psychiatrie, soit voir la case terrorisme. Et les deux peuvent cohabiter et là-dessus, effectivement, il y a encore, je pense, des progrès à faire dans la prise en compte et la compréhension de ces profils-là.
Tout à fait. Allez, on referme ce dossier-là, leur tourne. Laurent Mouloud, vous allez parler de foot, mais de foot, en fait, pas tellement de foot.
écoute.
Préférer la radicalisation.
On parle pas de France-Chili qui a lieu ce soir à Marseille et qu'on suivra évidemment, mais des larmes de Vinicius, l'attaquant brésilien du Real Madrid, qui joue lui aussi ce soir un match amical Espagne-Brésil, organisé justement en réponse aux insultes racistes dont il est fréquemment victime depuis son arrivée à Madrid en 2018. Et en conférence de presse hier, en évoquant le sujet, eh bien, il a fondu en larmes.
En fait, je vois que je suis chaque jour plus triste. À chaque fois, j'ai moins envie de jouer, mais je dois continuer à me battre.
Mas eu vou seguir lutando. Desculpa, que eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero.
Je suis désolé, je veux juste jouer au football, je veux juste jouer. Je veux tout faire pour mon club et pour ma famille.
Voilà, et pour ceux qui nous suivent en radio et pas sur le canal 27, il est applaudi, mais parce qu'il est au bord des larmes et même en larmes. Et je salue Nicolas Xismartoff. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Journaliste à SoFoot, où vous couvrez notamment toutes ces questions de racisme, un géant de ce calibre-là qui fond en larmes. Vous aviez déjà assisté à ça, vous ?
Non, parce que pendant très longtemps, les joueurs noirs ont pris l'habitude de prendre sur eux, malheureusement. Et ça a commencé un peu à évoluer. Mais en plus, le cas de Vinicius est singulier parce qu'il est particulièrement ciblé en ce moment et depuis 2-3 ans. Donc, il est confronté à une virulence venant des tribunes, qui d'ailleurs n'est pas que le fait, ça qui est frappant, de franges qui peuvent être très violentes et d'extrême droite, et on les connaît malheureusement. Mais il est devenu un cœur de cible pour plein de raisons. Il le dit à un moment dans son intervention, il dit on devient raciste même pour me faire mal jouer. Ça en arrivé à ce point-là. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est déstabilisé. Il dit quelque chose de très beau aussi. Il dit je ne partirai pas parce que je ne vais pas leur donner raison. Il ne partira pas d'Espagne ou du Real.
L'impression que ça donne, c'est que le racisme est peut-être en train de gagner un peu la partie quand on l'entend dire, mais moi, ça m'enlève l'envie de jouer. Alors, c'est vrai que ça se répète depuis 2018. C'est pas nouveau. L'Espagne est particulièrement touchée, Nicolas Xismartoff.
Oui, en tout cas, d'abord parce que c'est un grand championnat, qu'il y a des grands clubs, et forcément, quand ça touche des immenses joueurs comme Vinicius, ça prend une résonance. Mais l'Italie est particulièrement concernée, notamment parce qu'il y a une forte présence de l'extrême droite dans certains groupes de supporters. Mais on a des cas similaires en France, hein. Il faut pas non plus être naïf. On a vécu ça à Lyon. On peut voir apparaître ça dans certains stades parce que justement, il y a ce qu'on appelle des firmes, des groupes de hooligans très marqués à l'extrême droite. Et puis, on est dans une société européenne où le racisme est en train de se décomplexer. Donc, dans le football, les choses s'expriment toujours de manière plus virulente parfois et profonde, mais c'est pas un reflet de la société, c'est un acteur. Et ce qu'on voit à travers le cas Vinicius, c'est la société telle qu'elle est en train aujourd'hui d'avoir des maux de ventre et des mal au crâne. Mmh.
La société qui se décomplexe, vous entendez ça ?
Un sondage en Italie, près de 20% des Italiens estiment qu'imiter des cris de singe et proférer des injures racistes est justifié lorsque c'est en direction des joueurs adverses. Donc voilà, quand on parle de banalisation du racisme, parce que c'est le joueur adverse, on peut insulter des joueurs noirs. C'est vrai que certains se posaient la question de a-t-on vraiment besoin d'un public dans les stades de football ? Est-ce qu'on va en arriver à un point où il n'y aura plus de public pour regarder le foot et ça ne se passera qu'à la télé ? Vous voyez, c'est-à-dire que
ce serait quand même un renoncement.
La question était provocatrice, évidemment, mais c'est vrai que on n'y arrive pas.
Mais pas ça.
Là, pour l'instant, on n'y arrive pas. On n'a pas trouvé les solutions. Visiblement, il y a régulièrement Kylian Mbappé d'ailleurs a soutenu son coéquipier de l'équipe de France Dayo Upamecano récemment en disant qu'effectivement c'était inadmissible, mais même les plus grands joueurs se manifestent, la police enquête, il y a des décisions prises par les fédérations et pourtant ça continue.
Et ça fonctionne pas. Après le fil info, on vous nous direz peut-être, Nicolas Xismartoff, ce qui fonctionne ici ou là. Et Laurent Mouloud, promis, je viens vers vous aussi.
Non, vous voulez pas me faire parler.
Si, bien sûr que si. Le fil info, c'est Thomas Giraudeau.
Après avoir été rejetés par les sénateurs, les députés communistes voulaient inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée le CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, avant les élections européennes, mais le gouvernement l'en empêche. Le texte ne sera pas transmis à l'Assemblée avant le scrutin, annonce ce soir le ministre délégué au commerce extérieur. Washington continue de mettre la pression sur son allié israélien après son abstention lors du vote d'une résolution à l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat, peu apprécié par Tel Aviv. Le ministre américain de la Défense a estimé que le nombre de civils morts à Gaza est trop élevé, déclaration juste avant de recevoir son homologue israélien. Il quitte ses fonctions pour des raisons de sécurité, d'après son successeur, le proviseur du lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris, menacé de mort sur internet après avoir demandé à 3 lycéennes de l'établissement de retirer leur voile. Un jeune homme de 26 ans doit être jugé dans cette affaire le mois prochain. Et puis après les pièces de 2 euros à l'effigie des Jeux Olympiques, voici le timbre spécial pour l'événement. La Tour Eiffel et la Seine sur un fond rose et vert, ils seront mis en vente à partir de vendredi prochain.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On parle du racisme dans le foot avec Nicolas Sismartoff de SoFoot, Audrey Goutard de France Télévisions, Laurent Mouloud de l'Humanité, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico. Laurent Mouloud, vous vouliez la parole, alors je vous la donne.
Ah, j'ai la pression maintenant. Oui, mais non, je voulais juste quand même dire que ces questions de racisme, c'est aussi très propre au foot. C'est-à-dire qu'il y a une particularité quand même.
Par rapport aux autres sports.
Par rapport aux autres sports, on voit moins de déchaînement de racisme ou d'homophobie, hein, faut bien le dire aussi, dans les tribunes ou les stades d'autres sports, même si ça peut arriver, bien sûr. Et je crois qu'il y a un problème. C'est vrai que c'est le sport, on va dire, où se mêlent le plus des questions à la fois identitaires, culturelles, sociales. Et le foot porte beaucoup ces questions-là. Donc il y a une résonance, on va dire, et beaucoup de groupes de supporters ça s'identifient aussi à une appartenance un peu politique aussi dans les stades de foot. Il faut savoir qu'en Espagne, beaucoup de groupes de supporters sont aussi affiliés à des mouvements d'extrême droite, etc. Donc il y a une toile de fond aussi chez certains supporters à groupes d'ultra qui aussi favorise aussi ces passages. La deuxième chose, c'est que ces insultes racistes, qui datent pas d'hier, hein, c'est pas un phénomène nouveau dans les stades, c'est aussi utilisé par les supporters pour déstabiliser l'adversaire. Là, ce qui s'est passé là, on voit comment il est effondré, ce joueur, effectivement, il touche évidemment à quelque chose d'extrêmement dur, et c'est une mécanique aussi qu'ils mettent en place, les supporters, pour déstabiliser, parfois même dans leur équipe propre, il y a plus de joueurs noirs que dans celle adverse, ce qui ne les empêche pas de proférer des propos comme ça. Et donc le stade est devenu une espèce de défouloir pendant 90 minutes, et certains sociologues ont analysé la question en leur posant la question en dehors des stades, et en dehors des stades, ces gens-là n'ont pas forcément des comportements ouvertement racistes, mais dans le cadre du stade et du défoulement autour du match, avec les enjeux psychologiques qui s'imposent à ça, ils en viennent à lâcher et à rentrer dans ces processus racistes qui sont absolument inadmissibles.
Alors déjà, je note que vous associez racisme et propos homophobes. Il se trouve que Vinicius a eu en retour de sa conférence de presse ce tweet de l'ancien gardien du Paraguay, José Luis Chilavert, qui lui dit le premier c'est à insulter et attaquer ses rivaux, c'est lui, et je vous le dis poliment, mais qui dit que le football est fait pour les hommes. Nicolas Sismartoff, comment vous expliquez que le foot soit plus touché que les autres sports?
Parce que c'est sport numéro un. Parce que d'abord, en fait, le foot n'est plus un sport, hein. C'est devenu un phénomène de société, c'est devenu quelque chose qui dépasse largement ce cadre. Ça a même envoyé le champ politique, hein. Je vous rappelle, ne serait-ce que la façon dont le président de la République essaye de temps en temps d'utiliser, mais ou de l'employer comme un outil, comme un autre de communication. Donc le football est le sport numéro un, c'est le plus populaire, quelles que soient les catégories, les pays, même s'il y a des zones du monde qui y échappent encore, mais pour prendre l'Europe, c'est le sport numéro un, donc forcément c'est là que s'exprime et que ça prend une tournure beaucoup plus forte. J'aimerais que ça soit aussi simple qu'un exutoire ou une expression de racisme, et en sortant du stade, on deviendrait un bon citoyen. C'est bien plus complexe malheureusement que cela, et on voit notamment cette problématique de la question de l'identification à l'équipe et au stade, et des choses très fortes qui se manifestent et qui sont bien plus profondes simplement qu'un délire d'un soir. D'ailleurs, dans les groupes ultra, il n'y a pas que des groupes ultra marqués à l'extrême droite, il faut quand même le préciser. Certains se disent entre guillemets apolitiques et le sont, d'autres sont marqués à gauche, même si c'est beaucoup plus rare. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe, parce que le stade est une bonne manière d'analyser la société. Si vous voulez comprendre une ville, il faut d'abord commencer par aller voir un match de foot. Donc malheureusement ou heureusement, ça dépend des moments, on peut vivre des choses magnifiques. Mais c'est aussi pour cela que le foot est un intérêt réceptacle. Je vous explique juste en ce moment, il y a un débat pour savoir qui a droit ou pas de chanter, pour l'inauguration des Jeux Olympiques. Et je ne pense pas que ça soit lié spécifiquement au foot, tout ce qu'il peut y avoir de nos abonnés.
Autour d'Ayana Kamoura.
Voilà, exactement. Donc le football, c'est simplement le sport numéro un. Et je veux dire, enfin, c'est même plus un sport, c'est devenu quelque chose de bien plus important. Ben, il y avait un entraîneur anglais qui disait que le football n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus important que ça. Je pense qu'on en est arrivé là dans nos sociétés, et des sociologues parlent de fait social total. Donc, voilà, on est vraiment là-dedans et on est confronté à cette problématique. Vinicius, c'est pas enfin. La question de savoir ce que Vinicius mérite ou pas ce traitement, c'est surréaliste. Vinicius, c'est pas un saint. Il n'y a pas de saint sur, il n'y a pas de victime parfaite, jamais, en aucune circonstance. Et on ne demande pas de l'être. Il n'y a juste pas à exprimer ce genre de racisme envers une personne, quelle qu'elle soit. Voilà, tout simplement. Ou d'homophobie, ou etc., etc., ou d'antisémitisme. Donc voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il faut situer. Vinicius, il est chatoyant, il est provocateur. C'est un joueur qu'on peut juger ou pas, ou apprécier ce qu'il fait sur un terrain. C'est un très grand joueur et c'est le meilleur joueur brésilien pour le moment.
Et on a le droit de le critiquer, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour ça.
Voilà, mais non, mais pas c'est pour, juste là, pas c'est pour là-dessus, sa couleur de peau, bien sûr. Le débat, c'est pas qu'il parfois il fasse le détacle appuyé ou qu'il soit. C'est un débat récurrent autour du Real de Madrid protégé par arbitrage. On n'est pas sur cette thématique-là.
On a raison de s'interroger sur le cas Mbappé, qui est quand même annoncé au Real Madrid. Est-ce que c'est, il s'expose au même genre de critiques racistes?
C'est fort possible. Après, Kylian Mbappé, pour l'instant, entre guillemets, souvent passé sous le radar pour plein de raisons. Mais oui.
Pourquoi?
Forcément, il va.
Pourquoi en quelques mots?
Parce que en France, il a incarné autre chose. Voilà, il était l'espoir de la nation, le grand joueur, le futur Ballon d'Or, et que son identité a longtemps été vécue comme de manière trouble, même si lui a toujours été très clair sur son engagement contre le racisme. Il était, comme je disais, Zidane, un des Français préférés. Mm. Sauf que bon, ils sont nus. Mais le Real de Madrid, je pense qu'il sait très bien où il met les pieds. Hein. Personne ne peut
pas encore faire.
Ici, en Espagne ou en Italie, ce qu'il va affronter dans les stades. Personne.
Merci beaucoup, Nicolas Xis. Ouais, Nicolas Xis-Martov, qu'on vous lit dans SoFoot. Laure Mouloud, on vous lit dans l'UMA, la une demain.
Alors demain, on va titrer « Licencié pour un euro ». On revient sur le sort d'une dame pipi qui a été licenciée pour avoir pris un euro sur un comptoir. Et en fait, derrière tout ça, on lève un petit peu le voile sur les pratiques pas très propres, c'est le cas de le dire, de l'entreprise To The Loo qui gère la plupart des toilettes publiques dans les gares de France.
Dites-nous ce qui fait la une du site d'Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou.
Je vous en parlais un peu tout à l'heure, la croissance, on oublie toujours que ce qui permettrait de rétablir les comptes publics, c'est la croissance, et que ça n'est pas que un objectif irréaliste qui relèverait de la pensée magique, ouais. C'est atteignable si on s'en donne les moyens.
Merci aussi à Audrey Goutard. Demain, les informés 9h, c'est Salia Braclia et Renaud Dely, et nous on sera là dès 20h. Bonne soirée.